Bonjour à tous et bienvenue dans Marque Page, le rendez-vous littéraire de Radio Rythme Bleu pour les amoureux de la lecture et ceux, nous l'espérons, qui vont le devenir. On va partir loin et même très loin dans cette émission avec deux livres, le coup de cœur de Jonathan Cazoni et le livre de la semaine de Thierry Charton. On va commencer avec votre coup de cœur de la semaine, Jonathan Cazoni. Vous avez choisi un auteur indien qu'il va falloir nous présenter un petit peu, hein, Jiddu Krishnamurti, et vous avez choisi le livre de la méditation et de la vie. Alors, c'est un indien, je le disais, c'est un indien, un professeur de philosophie, enfin un philosophe, un penseur, presque un gourou, on pourrait dire même.
Alors, il s'est quand même beaucoup mis les gourous à dos, parce que justement, il a refusé cette étiquette. Mais avant de vous d'aller dans le détail de
oui, présentez-nous le personnage.
Je vais vous le présenter parce qu'il est assez dingue. C'est-à-dire que donc Jiddu Krishnamurti, c'est un Indien, pas les plumes, hein, donc l'Inde. Et il a un début de vie digne d'un roman hollywoodien. À 14 ans, il est sur une plage et il est repéré par un théosophe. Alors, les théosophes, c'est une société au début du XXe qui s'intéresse à tous les autorismes, et qui est à la recherche du prochain guide de l'humanité. Rien que ça.
Carrément.
Voilà. Donc, et je vous le donne en mille.
Ça tombe sur lui.
Et voilà, Krishnamurti, c'est lui. Il prend la pilule rouge et il devient donc le prochain guide de l'humanité selon la société théosophique. Mais coup de théâtre, en 1929, il a 34 ans, donc il a quand même passé 20 ans avec les théosophes. Il rompt complètement avec la société et il donne une conférence pour ça, dont voici quand même les premiers mots. La vérité est un pays sans chemin. L'homme ne peut l'atteindre par le biais d'aucune organisation, d'aucun credo, d'aucun dogme, d'aucun prêtre, d'aucun rituel, ni par le biais d'aucune connaissance philosophique ou d'aucune technique psychologique. Il doit la découvrir dans le miroir de la relation, dans la compréhension des contenus de son propre esprit, par l'observation et non par l'analyse intellectuelle ou la dissection introspective.
Ça veut dire que là, on rentre quand même un peu dans la spiritualité orientale, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qu'on connaît et puis il faut rechercher autre chose.
En tout cas, il y a une idée d'observation totale des faits, sans jugement et d'arriver à une sorte de presque, j'allais dire, de néantisation de sa personne, mais c'est quand même pas l'idée, parce que ce qui va récuser à chaque fois Krishnamurti, c'est d'avoir des concepts, arrêter d'avoir des idées, parce que son idée, c'est toujours qu'on va échanger un conditionnement contre un autre. Très bien, je vais pas bien dans ma vie, ce que je devrais faire, c'est le genre de phrase où il dira, on arrête, il n'y a pas de devrait, il n'y a pas de changement. Observez-vous comme une bête curieuse. Qu'est-ce que je fais? Ah, je fais ça. D'accord, bon, ok, je fais ça. Et à partir de là, il dit, il y a un changement qui est provoqué dans votre esprit, puisque vous arrêtez de vouloir à chaque fois changer d'un conditionnement pour un autre. Juste vous observez, et là, il y a quelque chose de radicalement neuf qui arrive.
Alors, comment il faut lire ce livre, le livre de la méditation et de la vie, comme un enseignement, comme des pistes à explorer soi-même? Comment il faut le prendre?
Alors déjà, c'est...
C'est dense, hein?
C'est dense. Alors, c'est la meilleure introduction à Krishnamurti, parce qu'en fait, c'est des courts passages. Il a donné que des conférences qui ont été retranscrites ensuite en livre. Et donc, vous avez 27 mars, au contact de la peur. Et là, il va décrire un petit peu qu'est-ce qui se passe et quelle est la réaction qu'on a habituellement. Et comment il va jamais donner de conseils, Krishnamurti. Il va juste dire, regardez, voilà ce qui se passe. Et à partir de là, vous pouvez commencer à cheminer. Mais arrêtez de vouloir systématiquement changer ce qui est déjà là. C'est déjà là.
Le livre de la méditation et de la vie de Jiddu Krishnamurti. Pour ceux qui le souhaitent, il est évidemment édité en livre de poche. Alors, on va rentrer dans un autre monde, pas celui de la philosophie et de la spiritualité orientale ou des concepts ou des non-concepts plutôt, mais dans le spiritisme avec un personnage. Alors, on ne s'attend pas, Thierry Charton, à retrouver Victor Hugo dans cette aventure. Et pourtant, c'est un des livres qu'il a écrit, en tout cas des textes qu'il a écrit lui-même, le livre des tables. On apprend grâce à vous que Victor Hugo a fait tourner des tables quand il était en exil à Guernesey.
Eh oui, il a fait tourner des tables du 11 septembre 1853 au 8 octobre 1955.
Mais qu'est-ce qu'il a pris alors?
Bah, il lui a appris simplement qu'il y a une dame qui s'appelle Delphine de Girardin qui le rejoint dans son exil. Il est accompagné de son fils Charles, de sa femme, de sa fille Adèle et d'Auguste Vacry, un ami dévoué. Et donc, il va s'intéresser à la vie des morts, en tout cas à la vie des esprits, simplement parce que Hugo, c'est une conscience universelle qui s'intéresse à tout. Et pour lui, c'est le mariage de l'occulte et du progrès. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement intéressé par les relations de continuité.
Et est-ce qu'il cherche quelque chose?
Alors, au départ, il cherche pas grand-chose. Il cherche simplement à essayer de comprendre l'infinie variété de l'esprit humain. Et parmi ces séances spirit, il va dialoguer avec des esprits les plus illustres. Il va dialoguer avec Hannibal, avec Dante, avec Alexandre le Grand, avec Molière, avec Jésus, avec Platon, avec Échille et avec
rien
Galilée. C'est-à-dire, et ça c'est simplement les plus grands, hein, mais il y a plus d'une centaine d'esprits qui vont venir à la table. Et d'ailleurs, lui, au début, Victor Hugo, lors des premières séances, va s'abstenir d'y participer pour éviter d'influencer ceux qui parlaient. Et puis, ils se sont vite rendus compte que finalement, ça parlait même lorsque Hugo n'était pas à la table.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre ? Ce que lui ont dit justement ces personnes qui sont venues parler avec lui, il retranscrit fidèlement ses conversations, ou en tout cas ses séances ?
Il retranscrit ses séances. C'est un livre qui est assez énorme, hein, puisqu'il fait quand même...
Rarement de petits livres de Victor Hugo.
Il y a rarement de lui, mais là aussi, on est sur un livre qui fait 600 pages. Et donc, ils vont quotidiennement avoir des séances spirites qui vont être tenues, les comptes rendus vont être faits, soit par Hugo quand il est là, soit par Auguste Vacry, soit par sa fille Adèle. Et ce qui l'intéresse, lui, et d'ailleurs il le dit, hein, ce qui l'intéresse, il le dit très bien, il dit « C'est essentiel, c'est Dieu ou l'histoire, ces deux objets s'imposent dans leur mystère sur le mode de l'énigme. »
Alors ça pourrait être un livre fabuleux, extraordinaire, pourtant c'est pas l'œuvre la plus connue, loin de là, de Victor Hugo, pourquoi ?
Non, c'est... alors je ne sais pas. Moi, je la connais, donc j'imagine qu'elle doit être connue partout ailleurs. Quand on sait que ensuite...
quand on parle de Victor Hugo, on va vous citer Notre-Dame de Paris, Les Misérables, un certain nombre de poèmes, mais pas le livre des tables.
Non, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'ensuite, lorsque ses filles, puisque Victor Hugo va perdre tous ses enfants, donc il va utiliser le spirit pour pouvoir rentrer en communication avec ses enfants. Et comme c'est un esprit universel, c'est quelqu'un qui a un esprit complètement ouvert. Et moi, ce que je trouve formidable aujourd'hui, où finalement il y a de plus en plus de médiums, et finalement ce qui est terrible, c'est la médiocrité presque des vivants qui ne s'intéressent à leur mort simplement pour leur demander si tout va bien. Enfin, ça serait bien qu'aujourd'hui, par exemple, on puisse avoir des conversations avec Galilée, Einstein, Majorana et pourquoi pas Victor Hugo lui-même.
Et au-delà du thème de ce livre, est-ce qu'on retrouve l'écriture de Victor Hugo, sa puissance évocatrice, enfin tout le style qu'on connaît ?
Non, parce que c'est vraiment... moi, je pense que ce n'est pas Hugo qui travaille ses textes, bien évidemment. On peut toujours le supposer, mais je ne crois pas. C'est simplement, il était en contact avec ces grandes éminences, ces grands esprits. Et d'ailleurs, on trouvera dans le cinquième et le sixième livre des Contemplations une inspiration, effectivement, directe de ces séances. Et il y a un très, très beau texte, hein, qui est le poème 26 du livre sixième des Contemplations, qui a été aussi alimenté par ce qu'il appelle la bouche d'ombre.
Voilà, une curiosité donc dans Marque-Page cette semaine. Ce livre de Victor Hugo, pas forcément le plus connu, le livre de table que vous pouvez vous procurer chez Folio Classique, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Peut-on faire cohabiter politique et poésie ? C'est en tout cas le pari que fait l'auteure calédonienne Corinne David, bien connue sur le territoire. Elle a exercé notamment en tant qu'élue pendant plusieurs années. Elle vit aujourd'hui en métropole pour raisons personnelles et elle vient de publier son sixième recueil de poésie baptisé « Embrun de mots » aux éditions Jet d'encre. Elle y parle politique. Alors évidemment, nous lui avons posé la question « Peut-on faire cohabiter intelligemment poésie et politique ?»
C'est un peu compliqué la cohabitation entre la politique et la poésie. Mais ça permet peut-être d'aborder des thématiques un peu complexes et de mettre un peu de rythme, de musicalité, d'aborder des choses sérieuses peut-être avec un peu plus de douceur, on va dire.
Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en avant dans ces poésies autour de la politique ?
C'est quand même un peu un lexique poétique politique, une compilation de ces 30 années de carrière en cabinet principalement, où les thématiques, on a notre propre mot en Calédonie. Donc, j'ai parlé du référendum, du consensus, du mot victime de l'histoire, accord, destin commun, partition, boycott. Ce sont des mots quand même qui font partie de notre sémantique locale, qu'on a besoin quand même d'expliciter, parce qu'il y a des émotions aussi qui vont avec derrière tout ça. Mais il y a aussi des thématiques plus sociales. Parce qu'en Calédonie, on s'occupe souvent du passé, du futur. Mais au niveau du présent, effectivement, la vie chère, hein, notre très chère vie, le problème de l'alcoolisation massive, les violences faites aux femmes, aux enfants, les marges, etc. Le quotidien calédonien, je pense que j'avais envie à un moment où la Nouvelle-Calédonie va peut-être inventer d'autres mots dans les discussions, que les mots d'aujourd'hui ou d'hier soient un petit peu compilés.
Est-ce qu'on peut aussi parler de poésie parfois en forme de jeu de mots ?
tout à fait. Les jeux de mots, c'est quelque chose, c'est une musicalité que je recherche, mais en même temps, ça permet de faire écho à des valeurs, à des exigences morales qu'on peut avoir dans une forme d'engagement. Je pense que par rapport aux jeunes, c'est important de savoir que la politique, il y a aussi un prisme d'engagement. Il n'est pas toujours perçu. Je pense qu'il fallait le mettre en exergue, quoi.
Corinne David, vous l'avez rappelé, hein, 26 années d'engagement politique en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il fallait une sorte de maturation aussi avant de pouvoir exprimer ces choses-là par le biais de la poésie?
Oui, je pense. Et puis c'est un moyen pour moi de tourner la page d'une vie professionnelle pour passer peut-être à autre chose. Vous avez vu que j'avais fait effectivement ma couverture moi-même, un système de pointillisme. Alors ce sont pas sur des points les uns à côté des autres. Là, j'ai voulu mettre tous ces mots les uns à côté des autres pour dire, parce que parfois c'est compliqué de dire en Calédonie les choses. Donc oui, avec du recul, des fois c'est mieux.
Le dessin, l'illustration, la peinture pourraient devenir pour vous une autre forme d'expression. Vous avez envie de travailler cela?
Oui, j'ai vraiment envie de travailler ça. D'ailleurs, j'ai illustré en brin de mots parce que ces mots-là sont particuliers. On va tous sur le lagon, on n'a pas tous les mêmes bateaux, mais on a tous ces mêmes embruns qui viennent nous rafraîchir. Rafraîchir les idées, quelque chose d'un petit peu de commun. Et donc, je me suis dit comment je pourrais illustrer ce titre que par moi-même avec système de pointillisme. C'est aussi pour moi un chemin thérapeutique, c'est un peu de l'art-thérapie, puisque le système de peinture d'inspiration aborigène invite à cela, à un certain travail hypnotique. On répète des points à l'infini et du coup, on prend de la distance par rapport à l'existence, on va dire.
Voilà Corinne David qui nous parle de son dernier recueil de poésie qui vient de paraître aux éditions Jet d'encre, Embrun de mots. Merci et à la semaine prochaine.